marche dans tes rues, qui me marche sur les pieds, je bois dans tes cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, je rêve dans tes bistrots. Je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments.
Bonjour à tous, ici Francine Broca, bienvenue à cette émission d'Un océan à l'autre. Je serai accompagnée toujours de Marie-Pierre Midouga, mais avant de commencer l'émission, je voudrais faire un salut. Nous avons appris la mort de Christophe cette nuit, un crooner d'une candeur amoureuse et de pièces marquantes de l'époque yéyé. Il nous a quittés, alors nos condoléances les plus sincères à sa famille et à ses proches, et voici mon coup de cœur.
Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire pour demain la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Grâce au petit clown qui nous fait rire. Même Alexa, cette pauvrette, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami.
Oui, leur ami, c'était Christophe. Une très belle chanson que les petites filles ont fait tourner. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Francine, comment allez-vous?
Ben ça va. C'est une triste nouvelle hein, quand les gens s'en vont comme ça, disparaissent tour à tour.
Tout à fait. Et c'est vrai que quand on avait annoncé son hospitalisation, craignait beaucoup, parce que Christophe, c'est quand même l'un des chanteurs de mon enfance.
Donc, ah ben oui, les petites filles, hein, surtout, je voulais faire tourner cette chanson-là, parce que depuis ce matin, je la ferai tourner aussi à la fin de l'émission, Aline, les mots bleus, et il y a une chanson qui s'appelle Goodbye, je reviendrai, qui est moins connue, mais je trouvais que les marionnettes, c'était quelque chose qui marquait, comme vous avez dit, notre enfance. On jouait avec des poupées, c'était quelque chose de joyeux, ces trois petites poupées, ces trois petites marionnettes que l'on mettait comme ça. Enfin, c'était mon coup de cœur pour Christophe ce matin.
Merci pour lui.
Merci pour lui. Enfin, comme j'ai dit à ses parents là et ses parents, à ses enfants et à ses proches, nos condoléances les plus sincères. C'est pas je sais pas. On a dit qu'il n'était pas mort du Covid-19. Il souffrait d'emphysème, je pense, c'est ce qui était écrit sur ce sujet. Enfin, la vie continue pour tout le monde. C'est comme ça, la roue tourne, la planète continue de tourner. Alors, qu'est-ce que vous voulez commencer par quoi, Marie-Pierre? Par nos coups de cœur, peut-être?
Par un petit ou grand coup de cœur.
Oui, d'accord.
Mon grand coup de cœur, il est général. Mm-hmm. En fait, on n'a jamais autant Du coup, puisqu'on est confiné à la maison, on n'a jamais autant cuisiné.
Oui, on va grossir. On va grossir, Marie-Pierre, on va grossir.
Oui, on va grossir probablement. En plus, on peut faire très peu d'exercice, donc oui.
Oui.
Mais cela étant, j'ai trouvé que c'était une bonne chose parce qu'on est obligé de vivre autrement, de changer notre manière de nous alimenter et de changer notre manière de manger. Et j'ai trouvé que ce confinement allait pouvoir permettre, puisqu'on doit faire moins de courses, il faut cuisiner, il faut être plus créatif, et bien on voit des blocs de cuisine, de la cuisine tous les jours. C'est pour ça qu'on manque de farine, des gâteaux.
Ah,
on
c'est voit ça.
Voilà, c'est l'explication. Et on voit une nourriture plus saine apparaître sur les photos, sur les blogs, un peu partout. Et je trouve ça réjouissant.
Oui, il y a des choses, très réjouissantes, comme il y en a d'autres moins réjouissantes. Mais je vous laisse dans votre bulle de joie. Oui, c'est vrai. Je vous parliez de ça. Et je voyais aussi ce matin qu'on avait fait, parce que vous savez, tous les gens de l'opéra, les danseurs de l'opéra ne sont plus là. Alors, ils ont fait tous des petites vidéos sur leur balcon, les exercices qu'ils faisaient à la maison, parce qu'ils sont confinés, ils peuvent pas. Alors, ils veulent pas perdre leurs muscles, ils veulent continuer à danser. Alors, chacun a mis ça et c'était très joli. J'ai vu ça ce matin à la télévision chez vous, là, chez... Je ne sais pas si c'est LCI ou l'autre, c'est quoi ?
LCI, BFM TV.
BFM, c'était sur BFM, oui. Je regarde moins souvent celle-là, c'est pour ça que je me souviens moins de cette. Mais c'était, je veux dire, il y a de belles initiatives, vous avez raison, ça porte de la joie. Alors, on cuisine, c'est pour ça maintenant qu'on n'a plus de farine, on fait du pain, parfait, on revient aux sources.
Oui, tout à fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était particulièrement... Enfin, ça m'a fait plaisir de voir que... Et puis, il y a une autre chose aussi qui m'a fait plaisir. Alors là, c'est la féministe en moi qui a brandi sa pancarte et qui a dit « Mâchallah ». D'habitude, généralement, ce sont les femmes qui rentrent à la maison. Hein. Elles sont confinées. Donc, c'est elles qui rentrent de préférence à la maison pour s'occuper des enfants. Oui. Là, au joie, au bonheur dans les entreprises tertiaires, tout le monde est à la maison. Ça veut dire qu'on devrait avoir un certain équilibre au niveau des tâches ménagères.
Vous pensez que les hommes vont se remettre aux tâches ménagères parce qu'ils sont à la maison, qu'ils vont
qu'ils ne peuvent pas occuper la télé tout seuls. Soit c'est les devoirs pour s'occuper des enfants au moins. Soit c'est les devoirs, soit ils ne peuvent pas rester à la télé toute la journée et ne rien faire. Et la femme courir partout, elle ne peut pas aller trop dehors. Donc je pense qu'on ne va pas assister à quelque chose de phénoménal. Et on va assister à un certain... rééquilibrage. Alors, je vais poser la question. On pose la question à nos éditeurs.
D'accord.
Ils nous répondent.
Combien d'hommes dont vous pensez qu'ils font... Enfin, ceux de vous, mesdames, là. Si votre mari, votre conjoint, votre amoureux, peu importe, fait le ménage, alors écrivez-nous. Envoyez-nous ça ici à francine.broca@trocradio.com. Je mettrai. Et le sondage, on en parlera lors de notre prochaine émission. Mais j'espère que vous avez raison. Remarquez que la jeune génération aujourd'hui sont plus actifs là-dessus. Ils partagent les tâches 50-50 plus que l'autre génération d'avant, que les hommes on leur mettait leurs pantoufles et on leur servait l'apéro. Ça a un peu changé, disons, et c'est pas plus mal.
On est d'accord.
C'est vrai, c'était comme ça. Les femmes attendaient leur époux. Enfin, ma mère, ma grand-mère, c'était comme ça. Ils attendaient leur époux, puis tout était prêt, le dîner était prêt, et puis voilà. Mais c'est bien. Alors, voilà, il y a un regain, messieurs, récuré. Parfait, on aime ça comme ça.
Et voilà, tout à fait.
Et votre autre pancarte, avez-vous une autre pancarte de féministe ?
Ça c'est mon coup de... Vraiment, mes deux petits coups de cœur. Hein.
D'accord.
La cuisine, le fait qu'il y a des choses conviviales, et puis ce côté de rééquilibrage probablement des tâches. Mais j'ai des coups de gueule, donc je vous laisse parler de vos coups de cœur aussi.
Bon, moi mon coup de cœur, c'est pour chez vous. Enfin, le premier, c'est pour nous, pour vous, pour nous, pour tous ceux qui vivons en confinement et qui respectons les consignes. Mais bravo à nous, on mérite un coup de cœur, je pense. Hein, on fait bien ça, on essaie de tout respecter, puis on fait ça. L'autre coup de cœur s'adresse chez vous, aux soignants particulièrement dans les EHPAD qui sont restés confinés avec les patients pendant 3 semaines, sans sortir de là. Ça, j'ai trouvé ça génial et d'un grand cœur et d'une grande générosité. Et il faut le souligner, ils sont restés là sans aller dans leur famille, sans aller rien. Et puis dans ce EHPAD-là, il n'y a eu aucun Covid-19. Maintenant, ils sont repartis, bravo. Je pense, oui, mercredi, je ne sais pas si c'est en Île-de-France ou à côté, mais on voyait ces gens-là qui étaient à l'intérieur, ils ont parlé à des journalistes et c'est formidable. Et je pense que c'est ça. Ça, c'était le vrai confinement, de pas sortir, de pas transmettre. Parce qu'ici, nous avons énormément de problèmes. Les gens meurent comme des mouches dans les centres hospitaliers de longue durée. Nous avons fait un grand appel aux spécialistes, aux médecins. On a besoin. Il manquait plus de 2000 personnes. Ça, c'est ce qui manquait en temps normal. Mm-hmm. Alors, vous imaginez maintenant avec la pandémie. On a demandé même à l'armée qui va venir nous aider. Vous savez, on a presque 1200 décès au Canada et la moitié est ici au Québec, donc la plus grande partie à Montréal. Alors, c'est pour vous dire. Puis il se passe des tas de choses qu'on apprend et voilà. Mais enfin, ça, c'était mon coup de cœur pour les soignants et pour nous aussi, parce que nous aussi, on mérite un bravo, un coup de chapeau pour les efforts que nous avons. Et puis, votre coup de blues, Marie-Pierre.
Alors, mon coup de blues, c'est le nombre de morts en France quand même. Hein.
Ah, oui.
Je vous entendais dire 1200 et c'est déjà trop. Nous en sommes à plus de 17 000 morts en France. D'abord, on est à plus que ça, puisque 17 000 morts, c'était le chiffre d'hier ou d'avant-hier. On n'a pas encore le chiffre, il doit être en train de passer là. Donc ça, je trouve ça phénoménal quand même.
Allez-y.
C'est vraiment plus qu'on l'imaginait, qu'on aurait pu l'imaginer.
Et encore si c'est les chiffres officiels, parce qu'on ne sait pas tout.
Tout à fait. Et là, je lis, et c'est à la fois un coup de blues et puis un coup de gueule, ouais. Je lis ça au nombre de personnes qui disent qu'ils sont très très impatients que l'on arrête le confinement au 11 mai. Qui serait prêt à reprendre tout comme avant. Mmh. Hein? Mmh. Et ça, c'est mon coup de blues parce que je dis, il va y avoir un regain encore. Il va encore y avoir un lourd tribut qui sera payé par nos anciens, puisque c'est eux qui meurent en priorité,
ouais.
Si j'ose dire. Mmh. Parce qu'effectivement, je ne vois pas comment les enfants qui sont généralement des porteurs sains vont retourner à l'école. Ils ne se sont pas, ils font la queue. Ça va être très compliqué d'expliquer à des enfants de ne pas se faire la bise, de ne pas se tenir par la main, de ne pas se toucher. Ça va être compliqué.
Pour les enseignants aussi, de faire respecter les consignes.
Que ce soit en maternelle, faire respecter les consignes, d'être extrêmement vigilant. Les enseignants ont des familles, ils vont retourner chez eux. On ne va pas pouvoir les confiner comme l'ont fait. Ces personnels valeureux qui sont restés 3 semaines sans rentrer chez eux.
Bien sûr.
Ça veut dire que ces mêmes enseignants vont rentrer dans leur famille, risquent d'attraper la maladie, la moitié seront peut-être des porteurs sains, l'autre moitié non. Donc on va se remettre dans des situations très compliquées.
Dans des beaux draps, dans des beaux draps. On va se remettre dans des beaux draps,
Et dans des beaux draps sans masque toujours, parce qu'apparemment les masques ne sont toujours pas distribués à tout le monde.
Ok, je veux juste faire une parenthèse pour savoir si vous en avez entendu parler. J'ai oublié de vous en parler quand on a eu notre rendez-vous au début de semaine. On lisait un peu partout, parce que vous savez, sur les réseaux, il y a ces bonnes choses, et des blablabla aussi, ou des fake news. On parlait de ce pilote qui s'était rendu en Chine pour chercher des milliards, des millions de masques pour amener chez vous. Et il avait été, à son arrivée, il avait le Covid-19. Donc, il était confiné en Chine jusqu'en juin et que vos masques ne rentreraient. Alors, tout le monde a dit, mais c'est épouvantable, quelle sorte de gouvernement on a, envoyer un pilote. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens savaient? Ce qui me surprend, c'est qu'on n'a pas fait le test avant de le laisser partir pour la Chine, parce qu'on sait là-bas qu'ils testent tout le monde. Mais c'est un fait, n'est-ce pas? Le pilote a le Covid-19 et vous n'aurez pas ces masques avant le début juin, si j'ai bien compris.
C'est terrible, hein? Alors, moi, j'ai vu cette information, Oui. Elle n'a pas été confirmée par le gouvernement, vous l'avez remarqué. Donc, elle n'a pas confirmé, donc ils n'en ont pas vanté. Du coup, je reste toujours un peu comme si je marchais sur des œufs avec cette information-là.
Ouais.
Mais toujours est-il...
Que vous n'avez pas de masque. Voilà.
Qu'on n'a pas de masque. Et qu'aujourd'hui encore, les masques qui rentrent, qui sont demandés par les régions, sont automatiquement préemptés par l'État et sont donnés en priorité au personnel soignant.
Ce qui est tout à fait normal. Ouais, ouais.
Je rappelle que les policiers, les gendarmes, les pompiers n'en ont pas eux-mêmes.
Non.
N'en ont pas encore beaucoup. Et qu'on voit un petit peu plus de masques qui circulent, mais en tout cas pas suffisamment.
Non, 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 c'est tout à fait. Moi, je dirais que quand j'ai entendu, parce qu'on en a, on savait pas ce qui était... D'ailleurs, vous avez dit, quand je vous ai demandé à quoi vous vous attendiez de la part d'Emmanuel Macron, vous m'avez dit, ah, ça va aller vers la mi-mai. Donc, vos prédictions étaient très bonnes, Marie-Pierre. C'est le 11 mai, n'est-ce pas? Oui, oui, chapeau à vous. Mais quand il a dit que les enfants reprendraient l'école... À quoi ça sert de reprendre l'école à la mi-mai comme ça? Est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Vous savez, ici, on a une grande pétition. Notre premier ministre avait même pas dit que les enfants reprendraient l'école. Il avait dit qu'il réfléchissait et on voyait sur l'écran de la télé avec un grand point d'interrogation. Ben, le lendemain, il y avait 200 000 écritures. Il a été blasté, comme on dit ici au Québec, de partout. Donc là... pour l'instant, à court terme, il n'y a pas. Mais là, il y a une pétition qu'on demande que l'école ne recommence qu'en septembre. C'est que vous disiez, votre blouse était là-dessus, et je vous comprends ici aussi.
Oui.
Est-ce qu'on a tout fait ça, et que ça va servir à rien? Je veux dire, on écoute partout, les médecins ne sont pas pour ça. On voit aussi qu'aux États-Unis, Monsieur Trump veut reprendre, il voulait ouvrir la frontière entre les États-Unis et le Canada, et heureusement, Monsieur Trudeau a tenu son bout, il a dit non, et ça va rester comme ça pendant bien des semaines. À quel point va-t-il pouvoir rester sur son, garder son point de vue? Je ne sais pas, mais... Puis d'un autre côté, je disais, vous m'avez dit que vous l'aimez beaucoup, là, votre philosophe, je dis ça, je ne sais pas, André Comte-Sponville, qui l'a dit que ben, il n'y aura pas de changement. Puis on fait tout un tointoin, ce n'est pas la fin du monde, là c'est 1% qui a eu la peste, qui a eu la grippe espagnole, il y a eu des millions de personnes qui sont décédées, et puis qu'on ne faut pas faire un cadre existentiel, on n'a pas fait ça, un cas existentiel de notre vie avec le sida, on ne va pas en faire de même avec le Covid, et puis tout cet argent qu'on dépense chez les vieux, ben on va endetter nos jeunes. Je ne dirais pas que c'est mon coup de gueule, parce que je suis fatiguée d'avoir des coups de gueule. Je pense qu'il faut être plus positif, mais je me pose des questions. Je comprends son point de vue. Il me dit que sur votre réseau en France, il y a 20 médecins sur les plateaux pour un économiste. Mais moi, je pense dans ma petite tête, écoutez, je suis juste Francine Broca, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, rien. Mais si on a des gens en santé... L'économie va pouvoir reprendre. Si tout le monde tombe malade et meurt comme des mouches, mais personne ne pourra aller travailler. Alors.
Exactement. Moi, vous savez, je suis toujours un peu ébahie par nos philosophes.
Oui.
Je note que c'est des philosophes
maçonniers. Oui, mais ils retournent toujours pour voir ce qui est arrivé à l'arrière, c'est bien. Mais il faut voir aussi ce qui arrive présentement. C'est vrai qu'il y a eu des cas, des morts, la peste et le sida et tout ça. Et ça fait beaucoup plus de morts que ça en fait maintenant. Mais on est à une autre époque. Là, c'est planétaire. On s'entend,
mais
là,
je
c'est...
Je suis très étonnée de son manque de bienveillance. C'est très étonnant parce que d'abord, il a fait un traité sur la bienveillance.
Oui.
Quand je l'entends... dire ne tombons pas dans le sanitairement correct, c'est ce que vous vouliez dire. Hein,
ah ouais,
je suis
ouais,
très
ouais.
étonnée. Je ouais. suis très étonnée. Et quand il dit qu'on ne va pas changer, mais il faut changer.
Ouais, il a dit comme ça, je me fais beaucoup plus de soucis pour l'avenir de mes enfants que pour ma santé septuagénaire. Bien sûr. Mais écoutez, maintenant, les septuagénaires, hier, j'écoutais une dame qui demandait à un médecin, écoutez, vous dites que les septuagénaires vont devoir rester confinés plus longtemps. Mais moi, j'ai monté le mont, je ne sais pas comment il s'appelle, avec son mari. Ils font du sport, ils sont en pleine santé, mais elle trouve ça difficile pour des gens en forme qui doivent être mis à part. Mais comme le médecin disait, c'est pas une question de forme, c'est une question que lorsqu'on prend de l'âge, on est plus susceptible, nos voies respiratoires, à attraper des certains virus. Et comme il a dit, ben madame, j'espère vous voir monter le mont, je sais pas le mont lequel, là, à 85 ans, que vous serez toujours là. Alors c'est ça. Et quelquefois, je ne sais pas, comme vous dites, hein, il faut peut-être réfléchir et tourner sa langue, comme vous l'avez souvent dit avant d'écrire. Et il a fait ce podcast. Bon, j'ai lu et je me suis dit, bon, est-ce que quelquefois on peut écrire des choses? Vous savez, l'histoire qu'on appelle du téléphone, vous dites de quoi quelqu'un, il écrit, puis rendu à la dixième personne, l'histoire a complètement changé. Mais j'ai écouté sur France Inter et son podcast et c'est bien ce qu'il disait. Que ben, c'est comme ça qu'on doit faire attention et que comment il a dit ça on ne meurt pas de ce tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. Bon ben voilà, ça veut dire et puis que la mort fait partie de la vie, je comprends, mais vous m'avez aussi dit qu'on voyait vous la coach de vie Marie-Pierre, vous m'avez aussi dit que on voit aussi comment un pays, la façon dont il prend soin des gens les plus faibles, la bienveillance qu'il apporte à son peuple. Et puis, il y a une journaliste qui écrivait, qui disait que les vieux, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. On n'en veut plus. Hein, et ça ne rapporte pas. Puis, on les met de côté dans des maisons comme ça. Souvent, ils décident d'aller là-bas parce que personne ne s'occupe d'eux. Par contre, on vous met en valeur. On disait que vous, en France, vous êtes plus près de vos proches, que le dimanche, vous recevez la mamie, que souvent, lorsque vous partez en vacances, les vacances de printemps, les vacances d'été, vous emmenez les grands-parents avec vous. Tandis qu'ici, si on demande aux jeunes, tu pars en vacances avec ta mamie, ils vont vous regarder en vous disant, mais tu sors d'où, toi? Voilà, ce sont les valeurs. Mais enfin, c'était juste que je voulais vous demander si vous aviez entendu parler de cette remarque-là du philosophe. Voilà.
Moi, heureusement, je lui opposerais Cynthia Fleury et la notion de soin. J'aime beaucoup Cynthia Fleury.
Ah, moi aussi, j'aime beaucoup. J'ai tous ses livres et elle a dit aussi que le care, c'était s'occuper l'un de l'autre. Je pense que ça dit tout.
Tout à fait. Voilà. Et je pense que c'est très important, c'est son dernier ouvrage sur le soin.
Le soin humanitaire.
Et effectivement, je pense que de toute manière, pourquoi les personnes âgées meurent? Parce qu'on transporte la maladie. Il dit qu'il s'inquiète moins de mourir. Alors, il a la chance de moins s'inquiéter de mourir parce qu'il a les moyens d'être confiné dans de bonnes conditions, déjà, pour commencer. Alors, il dit, au nom d'autres personnes âgées, mais on sait que quand une personne âgée meurt, c'est aussi une bibliothèque qui s'en va. On n'en a plus beaucoup de bibliothèques. Hein.
Non, non.
Même si notre société vieillit, mais le savoir se perd aussi. Alors moi, je crois qu'on devrait effectivement prendre le temps de se dire que notre monde doit changer, que le Covid, c'est une espèce de signal sur nos modes de consommation, nos modes de fabrication, nos process économiques. Et que si on ne fait pas attention et si on ne comprend pas, la peste... Elle avait des explications. Il a fallu changer, passer à une forme d'hygiène. Quand l'hygiène est arrivée, la peste est partie. Hein. Donc avoir moins de conditions qui permettaient un surpeuplement avec les rats partout. C'est idem quand on a eu ces grandes catastrophes avec les incendies. Hein. À Londres ou à Paris, on a construit en dur. Ça veut dire qu'après des grandes tragédies, des grandes épidémies,
on a des leçons
des
à
grandes
prendre.
Catastrophes, on a réagi. L'homme a réagi et ça lui a permis de survivre. Il ne s'est pas dit, on continue à rester ensemble. Non, pendant la peste, on a fait des confinements, que ce soit au Moyen-Âge, et on en a fait. D'ailleurs, je rappelle juste que c'est pendant les confinements qu'un certain Galilée, confiné dans un coin, a pu faire ses études sur la Terre et a dit, et pourtant elle tourne. Il était confiné, hein. Donc, il était pourtant âgé, sinon il serait mort. Hein, et il n'aurait pas pu le dire. Donc, sachons raison garder. Ça aurait été la même chose pour Léonard de Vinci, qui n'est pourtant pas mort tout jeune. Hein. On aurait perdu et on perdra un certain nombre de choses si on perd nos personnes âgées. Je rappelle juste qu'on est un pays plutôt âgé et c'est plutôt les gens âgés qui ont le pouvoir aujourd'hui. Donc, s'ils meurent tous... sans avoir transmis, ça va être compliqué.
Oui, je comprends son point de vue quand il dit bon, ben, qu'il faut, y a pas juste le Covid-19. C'est vrai qu'il y a, la vie continue à côté, il y a des choses, mais tout le monde parle d'un économiste pour 20 médecins. Les gens sont inquiets, les gens veulent savoir. On ne sait pas, on n'a pas de vaccin, on parle de beaucoup de médicaments, est-ce qu'ils vont avoir des effets positifs, d'autres ont peur négatif. C'est normal. Je ne me souviens pas, moi, d'avoir été confinée comme ça. Je veux dire, on peut rester chez soi parce qu'on désire, mais là, c'est comme une obligation qu'on a tous de faire la distanciation les uns des autres. Vous parliez tantôt pas de masque. Et les transports, ce matin, on parlait comment on va faire dans les transports. Comment garder un mètre de distance dans le métro chez vous? Spécialement chez vous, je parle, parce que ici, il y a beaucoup de monde. Mais quand on va à Paris, là, on respire dans le cou de l'autre. C'est plein.
Exactement.
C'est plein à
ça
craquer.
Ça va être très, très compliqué. Donc, effectivement, alors, cela étant, pour être tout à fait honnête avec notre philosophe français, il a quand même précisé que ce qu'il mettait en fait en regard, c'était d'un côté la compassion géniale, comme il l'appelle, avec le Covid-19, et de l'autre côté, le fait que nous n'ayons pas bougé pour la Syrie, que nous n'ayons pas bougé pour la tragédie des migrants, et que nous n'ayons pas bougé sur les 3 millions de morts de malnutrition, les 3 millions d'enfants morts hein, de malnutrition. C'est ça qu'il a mis en regard, hein, ouais. En disant, attention, voilà, on pleure pour, grosso modo, 240 000 personnes décédées dans le monde. Il y en a même un peu moins, d'ailleurs, dans le monde pour cette pandémie, mais on n'en fait pas autant quand il y a 3 millions d'enfants qui meurent. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je ne les oppose pas. Je n'oppose pas les tragédies.
Non,
je pense qu'il ne faut pas les opposer. Je pense que les uns comme les autres participent de ce changement de société que nous devons avoir. Il est tout à fait moralement insupportable que des jeunes meurent, que 3 millions d'enfants, 10 millions de personnes meurent de malnutrition, comme il est tout à fait insupportable que les deux tiers des populations âgées meurent de faim. On ne meurt pas en France ni à l'étranger de malnutrition parce que nous sommes trop nombreux. Mmh. On meurt de malnutrition parce que 1% de la population a entre ses mains 99% des richesses. Ce n'est pas la même chose. Donc, vous voyez, je veux bien qu'il s'indigne, mais ce n'est pas les millions. On ne met pas des millions dans le traitement de la faim.
Non. Enfin, il y a des leçons à prendre de partout, je dis, puis on est souvent très, très vite à dégainer. Vous savez, je vous disais qu'on avait eu de graves problèmes dans les maisons de soins à longue durée ici. On a fait appel aux spécialistes, aux urgentistes, aux généralistes, à tous les médecins, parce qu'on a mis beaucoup de chirurgie de côté hein, pour faire place au Covid, pour libérer des lits dans les hôpitaux. Et on a demandé, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Et là, les spécialistes ont été choqués, disant qu'ils avaient offert, mais il y avait eu une malorganisation et tout ça. Ce matin, une spécialiste est venue parler, elle a pleuré parce qu'elle a dit « Non, on est là, on veut aider, on va faire tout ». Et là, les journalistes font quelquefois un travail extraordinaire et d'autres fois, là, ils devraient fermer leur gueule et arrêter de poser des questions stupides. Combien de salaires? Parce qu'il y a des conventions ici, il y a des syndicats. C'est pas toujours, vous savez, les médecins, mais les syndicats disent « Ben non, c'est comme ça, vous devez respecter, on se bat pour vous, pour avoir temps, il y a des conventions qui sont signées ». Et là, ça a sorti partout. Et le journaliste, oui, mais vous les payez 211 dollars de l'heure, tandis que les infirmières en gagnent 20. Est-ce que c'est normal que les gens... Pourquoi c'est pas une question d'argent, là. C'est une question de solidarité. Des gens meurent. On a besoin de bras. Et il a lancé, comme le Premier ministre a dit, je ne sais plus comment vous le demander. Je ne sais plus comment le formuler. On a besoin de vous. Et il est très gentil parce que moi, je vais vous dire, je n'ai pas sa patience. Parce que tous les journalistes qui sont là, qui posent des questions. Oui, mais combien de morts? Combien de temps il vous reste pour les masques? Combien de temps il vous reste pour... Ça va changer quoi dans notre vie d'écrire ça, là? L'urgence n'est pas là. S'il vous plaît, mettez votre crayon, votre truc de côté et allez travailler dans les EHPAD, allez travailler dans les maisons, allez donner votre aide aux gens. On voit ces gens-là et il y a les enfants de ces parents-là qui sont dans les maisons, sont à l'extérieur, ils font des cartes, leur disent bonjour à leurs parents, des parents qui sont souvent bien Alzheimer ou presque, ou très avancés et qui savent pas s'ils vont les reconnaître. Ça fait plus d'un mois qu'ils n'ont eu aucun contact avec eux. C'est épouvantable ce qui se passe présentement. Je ne sais pas, chez vous, dans les EHPAD, c'était comme ça. Mais si, ça fait mal au ventre. Et là, vous disiez tantôt qu'il y avait des choses extraordinaires. Je suis d'accord. Sur les réseaux et toute cette technologie a fait du gros bon sens, mais quelquefois fait sortir le côté le plus sombre de l'être qui écrit à l'intérieur. Arrêtez d'écrire n'importe quoi. Ça fait vraiment démonter, là. Là, ça l'empêchait des médecins d'aller, ça l'empêchait des jeunes étudiants en médecine qui se sont... Tout le monde s'est senti offusqué, tout le monde s'est senti visé, et ça fait que de la merde un peu partout. Je regrette d'employer ce mot-là, là, mais il faut le dire. Quand vous écrivez, hein, les mots restent, les paroles s'envolent quelquefois, mais les écrits demeurent là. Et vous, quelquefois, on fait du tort. Et je regarde, même moi, je n'écris même plus sur Twitter, je suis plus capable parce que je vois que ce n'est plus ce que c'était et que les gens écrivent. C'est bien, on aide les gens qui perdent. On voit tous les jours, hein, bon, j'ai le Covid ou j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, j'ai perdu un être cher. Et tous les gens sont solidaires. Bon, on sont avec eux, leur offre leurs condoléances, leur écrit un mot. Ça, c'est génial, c'est génial. Mais pour le reste de la merde, est-ce qu'on peut s'en passer pour ce temps ici là? Vous reprendrez vos bêtises après. Vous voyez, j'avais dit pas de coup de gueule, mais c'est plus fort que moi. J'ai démonté de lait. Mais ça me fait mal au ventre quand je vois ces gens qui... L'animateur à la télé, il ne savait plus quoi dire. Elle a enlevé ses verbes, elle a dit « Excusez-moi mon côté émotionnel, mais ça m'a fait tellement mal. Mes collègues ici à l'hôpital ont fait tout pour aider les gens. Et quand on voit la haine qui s'écrit sur nous, sur les réseaux sociaux... Ça nous fait mal. C'est pas une question d'argent. On est prêt à aller travailler pour rien, pour offrir. Quand on est médecin, c'est une vocation. On veut soigner les gens.
C'est le serment d'Hippocrate. Oui, mais c'est terrible, hein, parce que il y a. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux, on va en parler là. C'est vraiment le meilleur comme le pire. Réseaux sociaux, ça permet aux gens sous couvert d'anonymat de libérer leur colère, leur frustration, leur haine, parfois.
Ouais.
On l'a vu, certains se sont emparés d'adresses de professionnels de santé pour aller leur demander de quitter l'immeuble. Certains s'amusent à jouer les corbeaux. Ça, c'est effectivement le pire de l'âme humaine. Mmh. Moi, je dirais qu'à la base de tout ça, c'est la peur. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on va engager. Comment endiguer sa peur? Comment avoir de belles résolutions et comment endiguer sa peur? Parce qu'effectivement, je pense que c'est la haine et la frustration qui font dire n'importe quoi aux gens.
Marie-Pierre, alors prenez un papier, un crayon et mettez votre haine là-dessus, là, puis vous n'êtes pas obligé de la mettre sur le réseau.
Exactement.
C'est pas là.
Mais c'est un besoin de visibilité et de reconnaissance.
Ah bon.
À partir du moment où les gens se sont rendus compte que quand ils écrivaient quelque chose sur les réseaux sociaux, ça pouvait toucher, entre guillemets, un public, si petit soit-il, hein, ouais. Les gens se sont sentis avoir un pouvoir. C'est très humain.
Ouais. Bah alors, les autres, bah, soyez plus intelligents, ne likez pas et ne retweetez pas, alors.
Ne retweetez, c'est ça. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que des gens qui considèrent les réseaux sociaux comme leur toilette, un petit peu, hein, si vous me permettez l'expression.
Oh, non, je suis tout à fait d'accord. Oui, il y en a qui prennent ça.
Il
oui,
y en
oui.
a beaucoup.
Ouais.
Et donc, je demande toujours, mais pourquoi est-ce que vous leur offrez une tribune? On a bien compris que les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance. Donc, pourquoi leur donner une tribune pour qu'ils puissent se répandre en cochonnerie, pour ne pas dire plus? Non, justement, vous l'avez vu, vous pouvez les signaler. Si les propos vous choquent, vous pouvez les signaler. Si vous êtes, vous pouvez les masquer, de votre page, de la timeline. Et j'apprécie beaucoup les journaux aujourd'hui qui ont enlevé les commentaires. Moi, j'avoue que j'ai enlevé certains commentaires sur mes sites.
Ah, bien sûr. Et puis et même, il y a des Radio-Canada, d'autres réseaux aussi font de même. Il y a beaucoup plus de surveillance. On essaie d'enlever la haine et tous les propos haineux qui s'écrivent. Mais reste en soi qu'il y en a beaucoup. Et je dis toujours que nos paroles, nos écrits ont tellement de séquelles sur les autres. Ils font mal à d'autres personnes. On ne se rend pas compte de la portée de nos mots, de nos écrits sur les autres. On devrait peut-être un peu plus réfléchir à tout ça. Enfin, mais je veux qu'on parle, on arrête de parler des choses négatives. Vous m'avez dit que vous avez trouvé de très, très, très belles choses. Alors, on va écouter un petit peu Aline de Christophe et on reprend avec une grande respiration et de très beaux moments qui se passent quand même sur les réseaux. D'accord? On écoute Christophe.
j'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié,
vous êtes sur Troc Radio, vous écoutez D'un océan à l'autre, Francine Broca, accompagnée de Marie-Pierre Medouga. Marie-Pierre, quel beau souvenir cette chanson.
Oh, magnifique chanson, magnifique.
Bon, ça nous fait revenir en arrière sur la plage et sur des moments amoureux, hein, à 12 ans ou 13 ans avec un petit copain à l'école. Il y a quand même de bons moments, c'est comme ça qu'on va essayer de retrouver ces moments précieux là. Alors, vous disiez que vous vouliez parler des choses, comment on peut rejoindre des gens, avoir ce côté solidaire sur les réseaux sociaux. Je vous écoute.
Mais tout à fait, tout à fait. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est de faire une série d'actions. En fait, c'est un immense coup de cœur que je voulais faire parce qu'on est en J32 en France. J32.
Oui, J32, je vulgarise pour ici les Québécois, ça veut dire que ça fait 32 jours qu'ils sont en confinement. Ici, nous en sommes 35, je pense que nous en sommes à notre 35e journée. Enfin, ça fait beaucoup de jours, oui, c'est beaucoup de jours.
Et donc, comme du coup, voilà, on s'est dit, évidemment, la vie ne s'est pas arrêtée, les morts ne se sont pas arrêtés non plus, les morts d'autre chose que le Covid.
Oui.
On l'a vu la semaine dernière, la maltraitance, et on s'est dit, il y a quand même de belles choses. Alors, dans les belles choses, d'abord, cette espèce de solidarité sans fin que les professeurs ont mis pour faire cours à leurs élèves, ça déjà, il faut le dire, hein, on a une merveilleuse émission sur France 4.
C'est vrai, c'est vrai. Vous avez beaucoup plus de trucs chez vous, oui.
Alors là, c'est vraiment, d'abord, c'est fantastique, juste pour les enfants, les élèves, tout le monde, c'est vraiment les parents, les enfants. Il y a beaucoup de sites qui font des activités. Alors, je ne vais pas citer ceux dont je m'occupe parce que ce n'est pas la peine, mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé. Il y a beaucoup de sites qui ont travaillé pour se dire comment on peut faire l'école des parents pendant cette période de confinement. Et puis, je vais citer une par une quelques actions. Alors, en matière de rendez-vous, le nombre de rendez-vous qui se fait à la fenêtre, des rendez-vous, alors non seulement pour applaudir, ça vous le savez, le personnel soignant, mais aussi une fête au balcon qui va se faire avec de la musique électro, hein, et qui s'est fait, et qui se fait dans certaines villes, où on met de la musique, hein, par exemple. Mmh. En matière d'art, alors il y a eu en Italie, avec le Prado qui a fait plein de visites en ligne, et puis ensuite il y a beaucoup de gens qui ont décidé de mettre en ligne des spectacles. L'Opéra de Paris met en ligne gratuitement tous ces spectacles, Don Giovanni, le Lac des Cygnes, le Barbier de Séville.
Ou même France Culture qui revient. Oui, France Culture qui revient avec beaucoup d'émissions. Oui.
Voilà, avec toutes les émissions.
Par contre, vous parliez, Marie-Pierre, des gens sur le balcon qui font jouer de la musique, c'est joyeux, mais j'écoutais le journal télévisé de 15h, puis on disait que les gens se plaignaient de la nuisance des voisins avec le bruit qu'ils faisaient sur le balcon. Vous voyez, on n'est jamais content.
Les gens ne sont jamais contents, ça c'est clair.
On disait, on ne peut pas plaire à ton père et à tout le monde à la fois, voilà.
C'est ça. En matière de sport, on a eu des belles actions, hein, et donc parmi les belles actions, il y a un créateur un coach de sport,
oui,
qui est en train de préparer des entraînements gratuits à la maison avec des variations. Regardez tout ce que font les youtubeurs.
C'était formidable. Oui, c'est formidable.
Tous les jours, les youtubeurs pour les jeunes font alors une compilation de vidéos. Alors, et sur TikTok, maintenant, le nouveau réseau social, vous allez en trouver. Alors, certaines un peu moins drôles, mais certaines très drôles. Pour que vous puissiez rire, qu'on puisse rire vraiment à l'écran, la métropole de Rouen, elle propose des cours de Zumba et cardio directement en direct sur Facebook. Voilà.
Oui, il y a beaucoup.
Il y a des applications avec des bénévoles pour assurer la distribution alimentaire. Entre autres, le réseau d'aide Entourage publie sur son site tous les bons réflexes à apporter pour continuer à aider les sans-abri avec des produits de première nécessité. Il faut aller voir le blog Entourage.
D'accord.
Alors, on a parlé de toutes les actions qui avaient été faites par les grands, le géant mondial du luxe LVMH. Vous le savez, qui a décidé d'ouvrir toutes ces lignes de production qui sont destinées normalement à ces cosmétiques, hein, et en particulier les marques Dior, Guerlain et Givenchy, qui vont faire du gel hydroalcoolique et qui les donnent gratuitement.
Ouais.
Mais c'est repris dans énormément d'entreprises. Et puis, du coup, il y a eu des entreprises de chimie qui ont fait la même chose, des entreprises qui fabriquaient de l'alcool, de l'alcool pour boire, qui ont décidé de s'en servir pour en fait faire du gel hydroalcoolique.
Non, il y a de bonnes actions, il y a de très bonnes actions qui se font.
Il y a de bonnes actions, et c'est vrai, ça nous ferait du bien d'en parler tout le temps.
Ouais.
Alors, toutes ces séries de masques en tissu.
Alors, on va changer un peu. On va dire nos coups de cœur et nos coups de blues, peut-être. C'est mieux que nos coups de gueule, peut-être.
C'est ça.
Oui.
Non, on a le droit de mettre des coups de...
Des montées de lait, moi j'ai des montées de lait. Moi, j'ai
on peut le dire, mais je voulais, là, cette fois-ci, pour l'émission, parce que cette peur, cette pandémie et ce confinement, ça réveille des peurs anciennes. Et ça réveille des peurs de confinement, ça réveille dans la mémoire collective des gens qui ne pouvaient pas sortir parce qu'ils étaient obligés de se cacher.
Ouais, comme la peste.
Des gens qui étaient enfermés. Et donc, du coup, on en oublie de dire que c'est aussi le moment de parler des belles choses. Je vous dirai dans l'émission prochaine le nombre d'argent qui a été collecté. Mais si on a parlé de milliards pour Notre-Dame, on peut quand même parler de centaines de millions
levées
de fonds qui ont été faits pour aider. Et des gens qui, à titre personnel, ont vraiment levé des fonds contre la pandémie et puis contre tout le reste, parce que du coup, ça a fait une prise de considération.
Et les gens sont généreux, les gens ont un grand cœur. Ici, il y a quelqu'un qui a été dans une grande surface, un peu comme le Carrefour chez vous, et un garde qui avait eu cet emploi-là de sécurité à la porte parce qu'il avait perdu son emploi, il ne pouvait pas aller, la distanciation et tout ça. Un père de famille avec 5 enfants, un couple a voulu rentrer, il a dit non, vous ne pouvez pas, c'est juste une personne à la fois. Alors le monsieur en question a attendu dans sa voiture, puis il est rentré... carrément sur lui, il a frappé avec sa voiture, dans un état comateux. On a demandé un peu de sous pour aider, et je pense qu'on voulait $2,000-3,000. Et en l'espace d'une journée, ils ont amassé $140,000 pour la famille.
Mais compte, magnifique.
C'est extraordinaire. Et je veux dire, on est sollicité de partout. Hein. Il y a des œuvres, la Croix-Bleue, la Croix-Rouge, toutes les croix ici, et toutes les associations, les organismes, ils ont besoin d'argent pour les sans-abri. Et sinon, on appelle les sans-abri les SDF chez vous. Et on voit aussi que les hôtels, je vois que chez vous maintenant, hein, les hôtels aident les hôpitaux à recevoir des patients. Mais pourquoi pas? Les hôtels sont vides.
Tout à fait. Alors justement, mais les hôtels, nous en parlions, la chaîne des hôtels Accor, qui est un groupe mondial, met à disposition du personnel soignant et bientôt aussi d'associations caritatives hein, pour les sans-abri, ces chambres d'hôtel, puisqu'elles sont vides.
Bien sûr.
Donc, vous voyez, voilà.
Arrêtons d'être égoïstes, de penser toujours à faire un sou sur quelque chose. C'est bien.
En matière d'éducation, plein de choses, j'avais entendu, les librairies sont fermées, on ne va pas pouvoir lire, que nenni.
Mais dites-moi, Marie-Pierre, je vous arrête, vous parlez des libraires. Chez moi, ici, on peut commander chez nos libraires en ligne, et on a la poste. Chez vous, je vois que, moi, il y a un libraire spécialement que quand je vais à Paris, l'Arbre à Lettres, qui est un petit libraire qui a tous les livres, et c'est inscrit sur son site, nous ne faisons pas, on peut simplement commander les e-books ou les choses pour mettre sur ses liseuses. Pourquoi ? À cause de la contamination de passer de la poste de main en main jusqu'à la livraison.
Non, du tout, parce que ça n'a pas été considéré comme
essentiel.
Comme une denrée essentielle.
Ah bon.
Donc, ce qui n'était pas en ligne au départ ne sera pas expédié. Ils ne sont pas considérés comme effectivement une denrée essentielle. Les libraires avaient demandé que ce ne soit pas comme ça.
Je trouve ça dommage parce que c'est le temps de où on peut, hein, on a beaucoup de temps là, apprendre une nouvelle langue, lire. Amazon aussi chez nous, non. Amazon, FR, ils ont décidé que les employés n'étaient pas assez protégés. Alors j'ai vu qu'ils ont fermé pendant 5 jours.
Ouais. Enfin, c'est pas Amazon qui a fermé, c'est les syndicats qui ont demandé à Amazon, qui est quand
même de fermer parce que
de pouvoir protéger les salariés. Et c'est vrai que ça mettait une grosse difficulté pour les libraires ici, qui du coup ne peuvent pas vendre de livres non plus et qui ne vendaient pas des denrées essentielles.
Ouais. Bah, chez nous, on a le même problème aussi. On a dit que on a les grandes surfaces qui sont ouvertes. Par contre, les petits marchands, eux, vous savez, dans les grandes surfaces, on peut tout trouver, des vêtements comme de la nourriture ou des accessoires ménagers. Et là, ils ont dit oui, mais c'est pas correct pour les autres. Alors, le ministre a expliqué que c'est comme une balance. Hein. On essaie, c'est vrai que ces grandes surfaces-là, les gens vont. Bon, s'ils peuvent trouver quelque chose d'autre, c'est correct. Et ils sont moins nombreux que de tout petits commerces au bout de la rue, partout. Mais par contre, les autres n'en font pas. Alors là, ils vont essayer de faire, de voir ceux qui sont les plus petits, moins de personnes, tant de mètres carrés qui peuvent aller. Mais on ne peut pas plaire, hein. On essaie de faire des lois. Il faut comprendre ça aussi, on met des lois strictes sur certaines choses. Il faut en laisser passer pour d'autres. Enfin, qu'est-ce qui est essentiel pour un n'est pas toujours essentiel pour l'autre. Là, ici, on l'a décidé depuis depuis le 15, c'est ça, qu'ils vont ouvrir les centres de jardinage, parce que c'est bien pour les gens de travailler dans la terre, de mettre les fleurs. Je ne sais pas comment ils vont faire ça dans les grands centres, mais enfin, ils ont mis des grandes plexiglas devant les caissières, ce qui est bien, mais est-ce que les gens vont respecter la distanciation? Enfin, il paraît qu'on en a pour longtemps et qu'il va falloir vivre comme ça. Ben, j'espère, parce que si on fait tout ça, et puis qu'on se met tous à s'embrasser, pas se toucher, mais on n'aura rien gagné de beau là-dedans, là.
Et rien compris. Un dernier point, et puis après, moi, je voudrais poursuivre ça par quelques petits conseils de coach pour justement voir le bon côté des choses.
Allez-y.
Donc, un dernier point, c'était la Bibliothèque nationale de France qui met à disposition ses livres et sa bibliothèque numérique, Gallica, et lire en ligne propose des œuvres littéraires libres de droit, sous forme numérique et sous forme audio.
Ça, c'est formidable.
Et ça, c'est très important. Alors maintenant, vous voyez, là, c'était juste un petit...
Une petite liste. Ouais, des petits bonheurs.
Des choses positives qui se passaient durant ce confinement. Et à toutes les personnes qui se sentent un peu dépassées, déprimées, je vais leur conseiller un petit exercice à faire tous les jours. De ce jour de confinement. D'abord, le premier, c'est de prendre un petit bocal transparent et des post-it. Et tous les jours, vous allez mettre dans le post-it quelque chose de bénéfique qui vous est arrivé dans la journée. Soit parce que vous avez souri, vous avez ri, vous avez entendu une blague d'un de vos enfants. Quelle est la chose bénéfique que vous avez fait dans la journée ? Il en faut au moins une. Et vous allez l'écrire, la mettre dans un post-it. Et ce post-it, le mettre dans le petit bocal.
D'accord.
Nous sommes le 17 avril, nous avons jusqu'au 11 mai. Ça fait quelques jours. Je vous fais le pari que ceux qui vont faire cet exercice vont s'apercevoir qu'ils ont plusieurs post-it par jour de choses bénéfiques qui leur sont arrivées.
D'accord.
Parce que le confinement nous oblige à être créatifs, nous oblige à être inventifs, mais on se retrouve aussi. N'oublions jamais la dimension de retrouvailles avec soi, avec ses proches.
Ouais.
Et puis quand on est seul chez soi, parce qu'on peut être effectivement seul chez soi, on n'est jamais complètement seul puisqu'on a évidemment les réseaux sociaux. Et tout ce qui est donné à notre possibilité, quand on a chez soi, j'entends bien un ordinateur, pour pouvoir aller sur les réseaux sociaux. Quand on n'a pas d'ordinateur, on a peut-être une radio. Il est très rare aujourd'hui de n'avoir ni téléphone, ni ordinateur, ni portable.
Ni radio, ni rien.
Ni radio. C'est très... Ou alors vous êtes dans un état de précarité extrême.
Ça s'appelle SDF.
Voilà. Oh, plus...
Ces gens-là n'ont rien.
Et quelques SDF ont un téléphone.
Ah bon.
Heureusement. Heureusement d'ailleurs. Hein, Moi, je vous invite à vous abonner à Croisepat, qui est sur Twitter, qui est un homme charmant. Et on le suit depuis... On se suit depuis des années maintenant. Qui raconte sa vie au ras du sol. Et qui raconte qu'il a, il a des anecdotes, il discute, il est suivi par la presse, parce qu'il y avait eu une opération il y a quelque temps où on avait donné des portables justement au SDF pour qu'ils aient ce lien. Et il dit que ça lui est très bénéfique d'avoir Twitter. Et donc on discute beaucoup.
Bon.
Il y a des choses, il a. Donc c'était. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours quelque chose de positif. Et que je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, par contre, monsieur. Comte Sponville, quand il disait il faut cesser ce fait de...
Il n'y a pas que le Covid-19 dans la vie, voilà.
Voilà, et de devenir géniard, vraiment. C'est-à-dire qu'on jeûne, on se plaint. Et effectivement, il y a d'autres malheurs plus grands. Alors, pendant cette période de confinement, qui est une période de malheur, certes, ou du moins de difficulté, mais on n'est pas à Gaza en France, hein. Il faut reposer. On n'est pas dans des situations extrêmes.
Non.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire de cette période quelque chose de positif? Non. La première chose, c'est de le chercher et de l'écrire, parce qu'on se rendra compte qu'on vit des choses positives. Voilà ce que je voulais dire.
Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de solidarité. Moi, je vais vous dire juste un petit point. Bon, vous savez que je ne diffuse pas en studio, je diffuse de chez moi présentement. Et bon, c'est le printemps, on a eu un manque de courant, d'électricité. Cette semaine, il y a eu des grands vents violents, les arbres sont tombés. Bon, les gens, ce matin, j'avais un peu peur parce qu'on coupait les arbres. Mais j'ai demandé à mes voisins quelquefois, écoutez, je diffuse deux fois par semaine, je ne veux pas imposer rien à personne. Mais là, on sait que je diffuse de chez moi, alors on essaie de respecter un peu mon horaire. Bon, le soir, ça va, mais c'est pour le jour où il y a des choses. Et je trouve que c'est bien. C'est ça, le care. Prendre soin des autres, l'un de l'autre. T'as besoin de quelque chose, je vais vous aider. Et comment je peux me rendre utile? Ça aussi, c'est des petits bonheurs. Donner, c'est apporter du bonheur à l'autre. Et quand l'autre est heureux, ça nous fait plaisir aussi. Hein, c'est
exactement.
C'est l'ascenseur qui revient. C'est l'ascenseur qui revient d'apporter de la joie, du bonheur. Puis c'est pas pour toujours, mais enfin, moi, ça me fait quand même peur de voir que on pense tout de suite au déconfinement et qu'on va. Je trouve que on y va rapidement. C'est trop rapide encore. On s'est plaint que on n'était pas content d'avoir tout ça. On a fini par comprendre que c'était pour un bien collectif, hein, pour tout le monde, de mettre l'épaule à la roue, d'agir ainsi. Mais là, si on est pour tous retourner, les mamans retourner travailler, les enfants à l'école, tout le monde va reprendre. Là, on demande d'être aux entrepreneurs, d'être conscients, de faire débuter, de changer les horaires pour les travailleurs. C'est tout un logistique, ça, à mener, là. Et les trams aussi, et peut-être de compter, j'entendais d'ailleurs qu'on disait de mettre tant de personnes dans les métros de Paris, pas plus que 60. Vous pensez que les Français vont accepter ça, là? Quand tu vas travailler le matin, t'attends, puis c'est 60 par 60, tout le monde va se décourager. Ça fait aucun sens.
On va revenir à l'ancienne période. On n'avait pas connu les métros comme ça. Moi, je l'ai connu.
C'est vrai.
Le métro, il y avait des portes, mais bien sûr. Moi, je me rappelle très bien de la porte. C'était au métro Jourdain. Je suis parisienne, j'habitais le 19e et le 20e. Et donc, au métro Jourdain, il y avait des portes. Et quand il y avait trop de monde dans le métro, ce n'était pas possible. Donc, en fait, il y avait des portes qui vous bloquaient. Mais vous ne pouviez pas rentrer. Alors aujourd'hui, les portes, ce sont des portes protège-quais, mais on va peut-être revenir à l'ancienne avec... ça va faire peut-être plus d'emplois, hein, allez savoir.
Avoir des gens de sécurité qui vont compter, et puis voilà.
Voilà, qui vont compter, qui vont dire là, c'est possible, là, c'est pas possible. Peut-être, on va avoir de nouveaux métiers.
Enfin, moi, ce qui m'a fait le plus peine, c'est quand M. Macron a dit que les frontières ne seraient pas ouvertes bientôt. Ça m'a fait de la peine. Mais enfin... C'est comme ça aussi chez nous. Hein. On va penser à voyager plus tard dans le temps, dans l'attente. On va réparer tout ce qu'il y a à réparer, faire pour le mieux pour toutes ces personnes. Alors, je ne sais pas. Moi, je voudrais dire aux auditeurs que bon, nous diffusons en direct le lundi, le vendredi, mais que les autres jours, vous pouvez aller sur soit Rock Radio, ou je sais que Marie-Pierre, vous mettez le lien pour que les gens peuvent réécouter en podcast l'émission à n'importe quel temps, aussitôt qu'elle est diffusée. Je la remets et les gens peuvent la réécouter à leur guise, à l'heure qu'ils veulent. C'est très important. Et puis spécifier que peut-être à partir de la semaine prochaine, on va diffuser à partir de 19h chez vous et 13h chez moi. Alors c'est ce que je voulais ajouter pour pas qu'il y ait de quiproquo dans nos horaires. On sait qu'on s'arrange avec les moyens de bord et comme on peut, mais là, on va essayer de s'ajuster, vraiment. Marie-Pierre.
Tout à fait. Tout à fait.
Je pensais que vous étiez partie dans le 19e, là, quelque part.
Je vous écoutais parce que vous avez une très jolie voix. Donc, je vous écoutais.
Dieu. Oh mon Dieu. Mon Dieu, la voix. Mais je trouve que c'est bien la radio pour ça. Parce que souvent, quand je suis en studio, on diffuse. Hein, c'est le nouveau truc, ça. En direct sur Facebook. Et je trouve que c'est moins mystérieux que ça a un certain côté. Mais quand les gens ne vous voient pas, ça apporte quelque chose de mystérieux, la voix. Sans nous apercevoir. Ça a quelque chose, un petit cachet de plus. Je dois être ancienne, ça doit être ça.
Oh non, le support de la voix sans l'image, c'est important aussi, parce que la voix nous fait voyager.
Ouais.
On a une voix, plus ou moins, on peut avoir une voix apaisante, on peut avoir une voix énervante, une voix qui crisse. Vous, ce n'est pas votre cas. Bon, j'espère que ce n'est pas mon cas.
Non, vous avez une très jolie voix aussi. Mais c'est vrai ce que vous dites. Souvent, je vois des gens, des animateurs, et je me dis... Purée, est-ce que, bon, on fait des choix, tout ça, ça n'empêche pas le talent et le travail que la personne fait, mais la voix qu'elle peut être, ou le charisme, hein. Moi ici on a je ne vais pas parler très fort, enfin, notre ministre de la Santé, elle fait un travail extraordinaire, mais elle n'a pas ce charisme, elle a un physique de ce qu'on appelle chez nous Madame Becsek, là, hein, rigide comme une ancienne religieuse défroquée, et qui est comme ça, et ça n'inspire pas beaucoup confiance aux gens. On ne lui pose pas beaucoup de questions. On pose les questions au docteur Arruda de la Santé ou à M. François Legault, mais elle, elle est très rigide aussi. Alors, il y a des gens qui sont plus sympathiques, leur physique aussi nous interpelle davantage.
Enfin, c'est pas oui, tout à fait. Tout à fait. Nous, on a la chance d'avoir un ministre de la Santé très... Alors, les gens en ont beaucoup parlé. Hein.
Ouais. Olivier Véran, vous parlez là, c'est
oui,
ça?
Oui, Olivier Véran. Donc, il est jeune, il est séduisant et les gens ont tendance à l'écouter. Voilà. Ouais.
Mais par contre, l'autre, je ne veux pas faire ma langue. Je vais me laver la bouche après, là. Mais ce n'est pas mes propos. C'est ce que je lis de ce qu'on dit chez vous. Vous dites de Jérôme, comment il s'appelle? Celui qui dit tous les soirs, là, tout ce qui se passe, tous les morts. Ouais. Ben, on l'appelle le croque-mort. Vous avez lu ça dans vos réseaux?
J'ai lu ça, c'est terrible.
Vous avez lu, n'est-ce pas? J'invente pas, là. Je veux pas que les gens pensent que je fais de ma langue sale, comme on dit, mais j'ai dit, mais comment on peut écrire des choses pareilles? Vous voyez ce que je vous disais tantôt? S'il vous plaît, asseyez-vous sur vos doigts.
Non, mais effectivement... Mais
ça vous fait rire, hein, mais c'est ça pareil.
Non, mais ça me fait sourire, parce que je me rappelle quand, à une époque, on avait le procureur général qui venait nous parler, comment il s'appelait? Vous voyez, j'ai oublié son nom.
Ça va vous parler. Mais enfin, c'est pour vous dire que les gens émettent des images sur des personnes, et puis je veux dire, ça n'empêche pas d'être sympathique, mais de là, ce qu'il soit, il fait son travail, mais de là, l'appeler croque-mort. Marie-Pierre, 10 secondes. Alors, je vous fais un gros bisou, et puis on se dit à lundi. N'oubliez pas, 19h Paris et 13h ici à Montréal. Merci beaucoup. Et puis, envoyez-moi les trucs pour que je mette sur le site pour les organismes ou les gens qui peuvent aller voir ce que vous avez parlé tantôt pour les livres et tout ça. D'accord ?
Je vous envoie ça dans l'après-midi, enfin dans l'après-midi pour vous. Je vous envoie ça dans les 2 heures qui viennent. D'accord.
Merci beaucoup Marie-Pierre. Bon week-end à vous et à lundi.
Bon week-end à tous. Au revoir.
Au revoir. Alors voilà, ça termine cette émission d'un océan à l'autre. Merci à tous de votre fidélité. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, je les transmettrai aussi à Marie-Pierre. Vous pouvez les envoyer à francine.broca@trocradio.com. Excellent week-end à vous. Excellente journée à tous nos auditeurs et auditrices sur Troc Radio.
Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds. Je bois dans tes cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots. Je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments. Je trinque à la santé de tes amants. Je laisse couler ta Seine sous tes ponts à rengaine, toujours après la peine. Je pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie, ce que t'es belle en pleine nuit. Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, et je picole en argot. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel, au moins elle, elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressembles au chagrin, ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé. Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Paris, Paris, tenue.